Bonjour à tous et très bonne année à vous, chers auditeurs de l'Esprit Public. En 2019, plus que jamais, continuons de porter un autre regard sur l'actualité complexe de notre époque. Ce que nous ferons aujourd'hui avec la sous-gouverneure de la Banque de France, Sylvie Goulard, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, le directeur du think tank Terra Nova, Thierry Pech, et le politologue Pascal Perrineau. Au sommaire de ce dimanche 6 janvier, ce que les vœux disent des présidents d'un monde et d'une époque, Macron, président debout, Trump, président en campagne. Mais tout d'abord, l'ultra-violence d'un samedi en France et l'habitude que nous prenons de ce feuilleton des Gilets jaunes. Acte 8, disait-on hier. Acte 8 marqué, puisqu'il fallait reprendre le champ lexical du théâtre, par deux scènes. Celle de ces gendarmes passés à tabac sur un pont de la capitale par un casseur au bonnet noir. Boxeur professionnel, ancien champion de France, nous apprend ce matin Le Parisien. Et puis la scène insensée d'un chariot élévateur, un engin de chantier, défonçant le portail d'un ministère, celui du porte-parole Benjamin Griveaux, évacué et mis à l'abri, avant de réagir quelques minutes plus tard.
Bon, c'est jamais très agréable de voir des gens défoncer à coups d'engins de chantier l'endroit où vous travaillez, mais c'est pas moi qui ai été attaqué. C'est la République, c'est les institutions, c'est la forme démocratique du gouvernement qui a été attaquée. Vous savez, ici, c'est la maison de tous les Français. Donc ceux qui ont aujourd'hui utilisé un engin de chantier pour défoncer le portail de ce ministère, ils ont attaqué la maison France.
Hubert Védrine, la porte d'un ministère forcé, un tel acte est rarissime. Je crois qu'il faut remonter à 1999 avec la scène des agriculteurs en colère dans le bureau de Dominique Voynet pour voir en France de telles images. Qu'est-ce qu'elles nous disent à la fois de notre pays et de notre époque ?
Notre pays, notre époque, je ne sais pas, mais ce qui me paraît sûr, c'est qu'il est temps, à propos de ces phénomènes de gilets jaunes, de trier, peut-être de distinguer plus dans l'analyse, dans le commentaire, entre les revendications variées, qui, à mon avis, qui mélangent tout et n'importe quoi. Enfin, il y a des choses absolument compréhensibles, comme ce qui était dit au début sur le fait que c'était absurde de taxer des gens qui n'ont pas d'autre moyen que leur vieille bagnole pour aller à l'hôpital du coin. Bon, il y a des absurdités au début, puis après, il y a tout un développement de revendications sociales et économiques variées, à mon avis, extrêmement irrationnelles. Bon, enfin, les gens ont le droit de l'exprimer, bon, ça, c'est une chose. Après, il y a le développement vers une partie de la radicalisation, je ne dis pas encore violence, c'est dans une part des gilets jaunes. Bon, à mon avis, ça doit se combattre, mais on peut essayer de trouver des explications, un peu tirées par les cheveux pour expliquer ça. Puis après, il y a la violence pure. Et à propos de la violence pure, il y aura toujours dans toutes les sociétés des pourcentages minuscules de gens capables de violence comme ceux que l'on a vu. Moi, ce qui me sidère, c'est pas tellement les actes en eux-mêmes, mais c'est le degré d'indulgence, de compréhension, voire d'approbation qu'on a vu depuis des semaines et des semaines. Or, c'est inacceptable de quelque point de vue que l'on se place, même si on croit aux revendications sur les changements des institutions ou bien la redistribution complète de la fiscalité, je ne sais pas comment, ça n'explique rien. Et il y a quand même une partie de l'opinion. Il y a eu d'ailleurs malheureusement, j'ai pas la référence exacte, mais dans plusieurs journaux comme Le Monde ou Libé, Le Figaro, il y a eu des analyses assez intéressantes sur une sorte de tradition française en fait, et pas qu'à gauche. Pour trouver que finalement il y a la violence malgré tout, s'explique parce qu'il y a des violences invisibles qui sont terribles par rapport aux autres villes. Alors vous voyez ce genre de pataquès. Donc c'est le moment ou jamais pour une partie de l'opinion qui n'est pas forcément a priori hostile à toutes les revendications de dire stop. Stop par rapport à ça. Voilà ma réaction.
Thierry Pech, il y a eu aussi hier cette vidéo, donc devenue assez vite virale, de ce gendarme boxé sur un pont parisien qui a suscité ce commentaire via Twitter de Jean-Luc Mélenchon. Je le cite, « Bataille au corps à corps sur les ponts de Paris, est-ce un pouvoir républicain celui qui donne de tels ordres ? Est-ce qu'on a une classe politique à la hauteur de la gravité de ces événements que nous vivons et dont parlait à l'instant Hubert Védrine ?»
Ça tombe sous le coup de ma remarque.
Je pense que Jean-Luc Mélenchon fait objectivement partie des leaders politiques irresponsables de la période, avec ce genre de déclaration, d'attitude, et que ça, d'ailleurs, ça ne lui profite pas et ça ne lui profitera probablement pas. Et Jean-Luc Mélenchon, en faisant ça, travaille pour le Rassemblement National, semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans les enquêtes d'opinion. Pascal Perrineau, ici présent, pourra sans doute confirmer ou infirmer ce jugement. Je rejoins complètement ce que vient de dire Hubert. Il faut à la fois distinguer entre une partie de ce mouvement qui porte des revendications légitimes, qui exprime alors que ce sont des gens qui s'expriment si peu habituellement, des réalités quotidiennes, des difficultés, etc. Et ça, je crois que on est tous, devant l'impérieuse nécessité de comprendre, d'écouter et de traduire en politique ce qui est en train de se passer. Et puis, il y a aussi cette composante violente, ultra-violente. Il y a peut-être une tradition française, on pense tous à février 34, on pense à d'autres épisodes de notre histoire nationale. Mais il n'empêche que l'ordre républicain doit être défendu activement face à ce genre de situation. Et ce qui est un peu préoccupant, je trouve, dans la situation présente, c'est que une partie du mouvement des Gilets jaunes est dans une espèce de complicité objective avec cette violence. C'est-à-dire qu'ils ne la commettent pas, mais ils la laissent faire d'une certaine façon. Enfin, ils n'ont pas vocation à s'interposer, mais ils sont aussi, d'une certaine manière, pour une partie d'entre eux, bien contents que ça fasse des images, de l'actu, et que ça façonne l'agenda, et que finalement, à 2500 ou 3500 personnes, on puisse occuper le haut de l'affiche.
Ils étaient 50 000 hier, la semaine d'avant, ils étaient un peu plus de 30 000.
3500 à Paris, on parle d'événements qui ont eu lieu à Paris, c'est pour ça que je pense à Paris, mais vous avez raison, ils étaient 50 000 en France. Enfin, un petit groupe bien organisé peut tout désorganiser. Ça, c'est connu, c'est ce qui est en train de se produire. Mais cette espèce de complicité partielle du mouvement, hein, c'est pas le cas de tout le monde, il faut pas caricaturer, est quelque chose d'un peu toxique. J'espère qu'en tout cas, dans l'opinion, ça se traduira par au moins l'expression de réserve ou de distance avec ce qui est en train de se passer.
La question de la représentation politique de ces Gilets jaunes qui est posée pour ces prochaines semaines, puisqu'en effet, il y a ce rejet violent des politiques et de toute récupération politique. Thierry, vous parliez à l'instant de Jean-Luc Mélenchon et d'un mouvement qui profite plutôt au Rassemblement national de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, elle, par exemple, hier, Pascal Perrineau, était silencieuse.
Comme depuis de longues semaines, Marine Le Pen, en effet, se tire de cet épisode de plusieurs semaines de mobilisation des Gilets jaunes de manière par le haut. Elle a joué assez habilement la période. C'est un soutien sans aller jusqu'aux excès, par exemple, porté par le patron de la France Insoumise ou par M. Ruffin. Il y a là une gestion assez intelligente qui fait qu'aujourd'hui, je regardais le dernier baromètre de confiance que fait Sciences Po, qui a été fait pendant les vacances de Noël. À l'issue de cette période, Marine Le Pen est aujourd'hui le leader politique qui a fait l'objet de le plus de confiance de la part des Français. Mais attention, une fois qu'on a dit ça, c'est moins d'un Français sur quatre. C'est-à-dire, ça montre l'ampleur de la défiance qui touche l'ensemble du personnel politique. Mais elle s'en tire relativement bien. Elle s'en tire relativement bien aussi en termes, nous sommes encore loin, bien sûr, des élections européennes, mais on voit bien que dans les sondages d'intention de vote pour les prochaines élections européennes, la liste du Rassemblement national maintenant fait nettement la course en tête, aux alentours de 24% d'intention de vote, devant une République en marche qui, ça y est, maintenant est en dessous des 20%, les autres partis étant plutôt dans une phase d'érosion. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à mesurer l'impact politique d'une éventuelle liste des Gilets jaunes. Alors ça tourne aux alentours, pour l'instant, de 8 à 10%, ce qui n'est pas négligeable, parce qu'il faut rappeler que 8%, c'est le niveau auquel est la liste aujourd'hui des Républicains dirigés par M. Wauquiez. Donc, vous voyez, pour une nouvelle force, rentrer à ce niveau-là, ça n'est pas complètement négligeable. Et puis, on avance un peu quand on regarde ces données, parce qu'on arrive à connaître un peu le profil politique. Et c'est là où, si vous voulez, on ne peut pas avoir, et je partage le sentiment d'Hubert Védrine, de dire, voilà, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. C'est un phénomène extrêmement composite. Quand vous regardez, puisqu'on a testé les intentions de vote pour les élections européennes avec une liste gilet jaune et sans liste gilet jaune, quand vous retirez la liste gilet jaune, qui en profite? Eh bien, c'est à peu près de manière égale les gauches comme les droites. Et celle qui souffrira le plus d'une éventuelle liste de gilets jaunes, c'est extrême gauche et même PS. Également. Voilà. Et celle qui souffrirait le plus éventuellement d'une liste de gilets jaunes, c'est Marine Le Pen. Et ceux qui sont à l'abri pour l'instant de la tentation, ce sont les électeurs de la droite républicaine, et les électeurs de La République En Marche. Donc on voit bien, si vous voulez, se dessiner ce qu'on dit au même depuis plusieurs années. Une redéfinition complète du clivage gauche-droite avec l'apparition maintenant d'un espace politique qui est extrêmement différent avec des forces centrales plutôt dans le centre de gravité et du côté de la droite modérée, contre des forces de la protestation qui sont des forces qui rassemblent à la fois la droite de la droite et la gauche de la gauche.
Merci pour ce rappel des chiffres et des faits. Merci pour ce prologue face à cette situation politique française. Que fera le président en place ? On va s'intéresser aux vœux du président Macron.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Le 31 décembre dernier, pour ses vœux à la nation, le président Macron était cette fois apparu fringant et requinqué, filmé debout dans son bureau de l'Élysée, ce qui était aussi inédit qu'évidemment symbolique et abondamment commenté. Pendant un peu plus de 16 minutes, on avait en effet entendu un président sur le registre de la détermination, qui n'avait pas prononcé les mots « gilets jaunes » mais avait fustigé, je cite, « les porte-voix d'une foule haineuse qui s'en prenait aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels, sous prétexte de parler au nom du peuple ». Un président qui avait veillé aussi pour ses vœux aux Français à se montrer empathique. Il disait entendre les colères contre la mondialisation, l'administration et même, ce qui faisait sourire ses détracteurs, contre le capitalisme ultralibéral et financier. Mais ce qu'on avait surtout entendu, c'était l'ambition d'Emmanuel Macron de réendosser le costume du président réformateur, annonçant un programme ambitieux pour 2019, ainsi qu'un grand débat. Ces derniers jours, on parlait aussi d'ailleurs d'un possible référendum, d'une lettre que le président était en train d'écrire aux Français pour leur adresser à la mi-janvier. Une parole présidentielle dont personne ne savait dire si elle était encore audible.
Les résultats ne peuvent pas être immédiats et l'impatience que je partage ne saurait justifier aucun renoncement. Le gouvernement, dans les prochains mois, devra poursuivre ce travail pour ancrer nombre de ces réformes dans notre quotidien, mais aussi pour changer en profondeur les règles de l'indemnisation du chômage, afin d'inciter davantage à reprendre le travail, l'organisation du secteur public pour le rendre plus efficace et notre système de retraite pour le rendre plus juste. Au fond, pour bâtir les nouvelles sécurités du 21e siècle.
Voilà extrait des vœux du président Macron le 31 décembre. Sylvie Goulard, de l'aveu de Bruno Le Maire lui-même, c'est-à-dire le ministre de l'économie en 2019, le gouvernement rentre vraiment dans le dur. Il dit que les réformes programmées sont potentiellement explosives. Il y a les retraites, bien sûr, avec le système à points et la fin des régimes spéciaux. La réforme de l'assurance chômage, avec une baisse probable des indemnités, ce que refusent pour l'instant les syndicats. Et puis la fonction publique, la modification du statut des fonctionnaires. Est-ce que ces réformes pourront réellement se faire ?
Bon, d'abord, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et bonne année. Je crois important que nous passions au fond et que dans la discussion, nous nous intéressions moins à ceux qui commettent des infractions. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. Hubert Védrine l'a bien dit. La violence n'a pas sa place dans un état de droit. Et que nous parlions de ceux qui... Il y a une chose qui m'a frappée dans les témoignages qui ont été recueillis hier. Plusieurs personnes ont dit qu'elles veulent devenir acteurs de leur destin. Et ça, je trouve que c'est positif, ça doit être entendu. Mais des acteurs responsables sont des gens qui tiennent compte aussi de l'ensemble des contraintes qu'il y a lorsqu'on gouverne. Et ce qu'à la Banque de France, nous avons observé à la fin de l'année 2018, c'est malheureusement un premier effet qui est un ralentissement de l'activité économique. Donc je dirais que même dans l'intérêt de ceux qui veulent avoir du travail, et c'est légitime, et un travail qui leur permet de vivre dignement, il est important de ne pas déstabiliser la société et l'économie. Parce que sinon, il n'y aura pas de création de richesse, donc il n'y aura pas d'argent à redistribuer.
Mais pardon, ça relève un peu du vœu pieux.
Non, ça n'est pas du tout un vœu pieux. Là, je m'insurge en faux. Je crois qu'il est important d'expliquer que dans un pays où la dette coûte aux contribuables déjà 40 milliards par an à peu près, on peut souhaiter une nouvelle distribution des ressources. On peut souhaiter... des décisions qui appartiennent au pouvoir politique. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous héritons d'une situation qui, depuis une trentaine d'années, a consisté à augmenter les prélèvements obligatoires et à augmenter la dépense publique. Donc moi, je m'adresse à toutes les personnes qui veulent que ça change et qui veulent devenir justement acteurs de leur destin pour leur dire, très bien, il va y avoir ce débat, il va s'ouvrir, mais dans ce débat, nous avons besoin de prendre en compte plusieurs éléments de faits, de chiffres, et non pas seulement des émotions à la surface ou des vidéos virales. Et là, on entrera dans une discussion qui sera infiniment plus intéressante et dans laquelle on pourra discuter véritablement de ce qui est possible. Parce que je rappelle juste une chose, peut-être idiote, vous direz, banale, c'est que la France a des partenaires et des concurrents dans d'autres pays du monde et que nous ne pouvons pas faire totalement abstraction de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, bien sûr qu'il faut répondre aux demandes légitimes, mais on ne peut pas le faire en faisant abstraction totale de la réalité et du coût que ça représente. Parce que, une dernière chose, la dette, c'est reporter sur nos enfants et nos petits-enfants les choix d'aujourd'hui ou les non-choix d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons déjà beaucoup trop fait dans ce pays.
Il y a ce discours économique très rationnel face à cette société que vous avez qualifiée à juste titre d'émotive, Sylvie Goulard. Thierry Pech, il y a aussi en parallèle cette initiative d'un grand débat national lancé, peut-être même une consultation référendaire. Est-ce que tous ces ingrédients-là, au bout d'un moment, suffisent à refaire nation, c'est-à-dire à relancer la possibilité même d'un quinquennat ?
Écoutez, moi je pense que l'idée du grand débat, elle s'imposait et elle ne suffira pas. Je peux rejoindre ce qu'a dit Sylvie Goulard à l'instant, et néanmoins considérer que le réalisme ne fait pas société, ne fait pas une démocratie. Donc il faut aussi autre chose qui a été un peu oubliée. C'est-à-dire qu'il y avait deux mandats, au fond, dans l'élection de 2017. Il y avait un mandat qui était l'agenda des réformes, agir, moderniser le pays, le rendre plus compétitif, etc. Et puis il y avait un autre agenda qui était changer la politique. On a changé les politiques, on n'a pas vraiment changé la politique. Et au fond, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il s'est coulé dans une institution qu'il a beaucoup verticalisée, qu'il a rendue plus hiératique. Et on a eu le sentiment très rapidement que le politique allait se réduire, d'une certaine manière, à une instance d'exécution. Et qu'il allait laisser de côté sa mission de représentation. Et au fond, je crois qu'il y a eu quelque chose là de toxique pour le pouvoir lui-même. Et il est en train d'essayer de renouer un des fils perdus du mandat de 2017, qui est changer la démocratie, redonner voix à ceux qui s'expriment peu, renouer avec des thèmes qui ont été oubliés, qui étaient la bienveillance, l'empathie, qui avaient caractérisé le candidat Macron et qui ont disparu du vocabulaire et de l'attitude du président Macron. J'ai été sensible à un mot qui est revenu, un mot un peu cuistre là dans la presse récemment, qui est le mot d'oclocratie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le pouvoir de la foule par opposition à la démocratie, le pouvoir du peuple. En général, les gens qui portent ce mot-là portent avec eux la critique d'une masse et d'une multitude tumultueuse, passionnelle, inconséquente, etc. Et ils ne font pas l'hypothèse que peut-être, si on en arrive là, c'est parce que la démocratie a cessé de bien fonctionner. Et à cuistre et demi, relisez Polybe, les histoires de Polybe, l'anacyclose des histoires de Polybe, et vous découvrirez que si on en vient à l'oclocratie, c'est parce que quelque chose a déconné, pardonnez-moi l'expression, dans la démocratie, et l'oclocratie fait le lit de la monarchie. Et en général, les gens qui critiquent l'oclocratie en viennent à demander un pouvoir encore plus fort, etc., et on en vient au pouvoir d'un seul. Donc, essayons de retomber sur nos pieds. On a besoin, avant de refaire nation, de refaire démocratie. Et pour ça, le grand débat, c'est bien, mais il faudra sans doute d'autres choses encore. Il faudra d'abord mettre fin à cette espèce de mythe jupitériste qui veut que un seul homme puisse concentrer sur lui toute la représentation nationale, toute la représentativité, et donc soit comptable de tous les échecs, de tout ce qui ne va pas du jour au lendemain. Il faut remettre du débat politique dans nos institutions. Moi, j'ai grandi dans un monde où il y avait des débats entre les ministres. Souvenez-vous, entre Guigou et Chevènement, il y avait des débats entre le Premier ministre et le Président même. Il y avait des...
Hubert Védrine a connu cette période-là.
Hubert doit s'en souvenir. Dans la pratique gaullienne même de la Ve République, on laissait vivre davantage de débats politiques, y compris à l'Assemblée. Aujourd'hui, dès qu'une oreille bouge, c'est un problème, on hurle à la division, il faut que tout le monde rentre dans le rang. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le président est aussi un arbitre des controverses que suscitent les orientations qu'il a lui-même définies. Et il doit être le pouvoir du premier mot, mais aussi le pouvoir du dernier mot. Or, aujourd'hui, il est le pouvoir en continu, seul au milieu de la scène, celui sur lequel tout le monde tape. Ça ne va pas, ça le menace lui-même. Donc, je crois qu'il faut réagir pour sortir cette crise. Il faut certes des propositions, des mesures, etc. Mais il faut aussi changer un peu la vie démocratique française.
Hubert Védrine, à la fois sur ce programme de réforme qui continue d'être ambitieux pour les semaines et les mois à venir, et en effet sur cette nécessité d'une autre pratique du pouvoir, d'une autre gouvernance, est-ce que cette majorité-là en prend le chemin ?
D'abord, je crois, comme l'a dit Thierry, que la mission réformatrice est très importante, puisque, en réalité, rappelez-vous, dans l'année avant l'élection présidentielle, je parle sous votre contrôle, dans tous les sondages, Marine Le Pen était battue par n'importe quel candidat. Donc c'est pas simplement Macron qui a retourné une situation. Bon, il l'a battu beaucoup plus parce qu'elle s'est effondrée sur l'euro et parce qu'il était meilleur, etc. Mais donc ce qui veut dire que la vraie mission c'était plutôt celle de la réforme. Alors ce qui me frappe dans les réformes que vous avez rappelé, Émilie, sur ce qui était dit dans les vœux, c'est que sur chacune des réformes que moi j'approuve, hein, je trouve ça indispensable, à peu près tous les pays développés au monde l'ont fait, sauf nous. En général, ce sont des coalitions qui l'ont fait, avec des sociodémocrates dedans, y compris les réformes fiscales contestées aujourd'hui, qui ont été faites par les sociodémocrates, bon, etc., etc. Là-dedans, c'est presque toujours des réformes qui peuvent inquiéter les gens, sur un des points. Mais comment ça va tourner pour moi? Qu'est-ce que je vais devenir là-dedans? Je trouve qu'il y a un manque qu'il faudrait absolument relancer. C'est la question de la formation. C'est un mot creux, c'est un mot bateau. Mais en réalité, dans cette société où les gens sont très inquiets pour l'avenir, parce que tout bouge, tout est instable, l'état du monde est effrayant, etc. Bon, les gens sont inquiets pour leurs enfants. Donc l'idée qu'il y a un système qui fait qu'on peut rebondir sans arrêt, pas la seconde chance, mais sans arrêt, toute la vie, rebondir en étant adapté à une société, trouver des nouveaux jobs. Si on arrivait à regrouper tout ça, à le populariser, à le faire comprendre, ça c'est un élément qui redonnerait confiance, même si les gens disent au début « j'y crois pas, ça va jamais marcher leur truc ». Bon. Mais c'est un fil à tirer qui est à mon avis politiquement plus important que la question des retraites, que je ne néglige pas, et toutes les autres. Quant au système, en choix, ça nous ramène au fait qu'il y a une contestation violente de la démocratie représentative. Vous vous rappelez, je sais bien qu'on ne sait jamais qui représente les Gilets jaunes, mais les gars disant, on n'a aucun représentant, il n'y a que moi qui me représente, s'il va dialoguer, c'est un salaud, on va l'écarter. Bon. Et c'est pour ça que dans tous les voyages que j'ai faits dans les dernières semaines, chez tous les dirigeants étrangers que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup, il n'y en a aucun qui était très flambant, en fait. Alors, il y a ceux qui ricanent quand la France a des ennuis, il y en a plein, mais ils se sentaient tous potentiellement menacés par l'idée de la démocratie représentative, instantanée, immédiate, à coup de réseau. C'est la dictature, ça. C'est la dictature de tous sur chacun. Donc, il faut renflouer la démocratie représentative, qui est bien malade, à coup de démocratie participative. Donc, il faut retrouver des soupapes. Et moi, je ne suis pas absolument hostile à des référendums, à condition qu'on cadre bien le sujet, les conditions de déclenchement, etc. Donc, je pense qu'il y a des choses à tirer de l'exemple suisse. Mm. Pas pour remettre en cause les institutions tous les matins, hein. Mais moi, là, je ne suis pas fermé à ça.
Comme cela se murmure, c'est d'un référendum, à choix multiple, à questions multiples, par exemple sur des questions institutionnelles, sur le nombre de parlementaires.
Mais à mon avis, c'est un faux sujet, parce que regardez tout le travail, tout le tam-tam qu'on a fait depuis des années sur la moralisation de la vie politique. Le non-cumul des mandats, et puis la surveillance de chaque élu. Mais c'est comme si c'était rien passé. Les gens s'en fichent complètement. Par rapport à ça, on a cru améliorer énormément. Sous François Hollande, il y a eu beaucoup d'avancées, si on se place de ce point de vue. Hein. Et ça donne l'impression que dans le débat, ça compte pas du tout. Donc moi, je ne serais pas hostile au fait d'aller au-delà, même à revenir à une certaine interprétation de la Ve République dans laquelle le président serait arbitral, finalement arbitral, dans une République parlementaire reconstituée, moderne, comme les autres pays d'Europe. Après tout, les institutions de 58-62 permettent les deux. Donc je suis pas du tout fermé sur des évolutions. Mais je crois qu'il faut casser le processus vers la démocratie, la dictature pseudo-démocratique instantanée, la dictature de tous sur chacun, avec le rejet de l'ensemble des représentations. C'est ça qu'il faut reconstruire.
C'est-à-dire que le Parlement aujourd'hui, il est davantage sur les réseaux sociaux que peut-être dans les deux hémicycles qui existent dans l'Hexagone, justement pour redynamiser ce processus démocratique. Sylvie Goulard, tout ce qui est proposé en cette rentrée 2019 est-il au niveau, que ce soit ces cahiers de doléances, que ce soit ce grand débat national, que ce soit peut-être l'hypothèse de ce référendum?
Mais ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, et je voudrais revenir un instant là-dessus pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec Thierry, et donc peut-être avec les auditeurs. Non, c'est qu'effectivement, si on veut revitaliser la démocratie, on peut raisonner en termes de procédures, en termes d'institutions. Pour ma part, et c'est pour ça que j'avais mentionné les Gilets jaunes qui veulent être acteurs, je crois que l'acteur essentiel dans la démocratie, c'est le démos, c'est le peuple, ce sont les individus eux-mêmes auxquels il faut... je dirais donner accès à des décisions de manière probablement plus assumée, avec beaucoup plus de dialogue, mais aussi attendre d'eux la part de responsabilité. C'est pas de la technicité. Pour ma part, le vrai danger, c'est si on considère qu'il y a d'un côté les experts et de l'autre côté le peuple. C'est absolument faux. Il faut que tous les citoyens intègrent un minimum des contraintes qui sont des contraintes comme on en a dans nos familles de gestion d'un budget ou de choix. Il y a des choix à faire, ce sont des choix douloureux parfois. Et de l'autre côté, effectivement, il faut que les experts se rapprochent des populations. Mais ça ne peut pas être à sens unique. Et c'est bien quand ça n'est pas à sens unique qu'on n'a pas une conception de la foule négative. C'est assumer parfaitement pour chaque individu sa responsabilité de participer à la décision publique.
Pascal Perrino, monsieur le politologue, qui avait le recul historique aussi, est-ce que pour redynamiser justement ou tout simplement en fait relancer la possibilité d'une vie démocratique, il faut qu'elle aille se ressourcer face à une crise comme celle que nous rencontrons, en effet, dans une issue référendaire ?
C'est évident que la démocratie représentative, telle que nous l'avons réinventée sur les décombres des régimes autoritaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a besoin d'être réinventée. On arrive dans une fin de cycle. D'ailleurs, quelques observateurs dont on parlait peu l'ont dit depuis de longues années. En nous écoutant, je pense à un livre de Guy Hermet qui s'appelle « L'hiver de la démocratie ». Dans lequel Guy Hermet, ce spécialiste excellent des autoritarismes, constatait, quand il regardait notre démocratie représentative, que nous étions rentrés dans un automne et peut-être dans un hiver de la démocratie représentative. Et qu'il était nécessaire de la réinventer. Et il disait dans son analyse, au fond, notre régime est en train d'évoluer vers un nouveau régime dans lequel il y a deux forces dominantes. D'un côté, le populisme, tel qu'on le voit, le populisme de gauche, de droite, ce populisme difficilement classable aujourd'hui, que l'on voit en Italie avec le mouvement 5 étoiles, que l'on voit en France avec les Gilets jaunes, et d'autre part ce qu'il appelait la gouvernance, c'est-à-dire des pans entiers de l'action publique qui sont donnés en effet au pouvoir technocratique. Et il disait « ça n'est pas satisfaisant, ça n'est pas à la hauteur de la crise de la démocratie représentative ». Et on le voit, il y a eu des tentative d'essayer de répondre. Je pense par exemple à la campagne de Ségolène Royal en 2007, avec cette insistance sur la démocratie participative. Aujourd'hui, on le voit avec ces demandes de démocratie directe ou semi-directe véhiculées par le mouvement des Gilets jaunes. Alors, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Je ne crois pas que, par exemple, un référendum révocatoire des élus, ça soit une bonne chose, bien que ça existe dans certains États américains, hein, le phénomène du recall. Mais que l'on n'introduise un référendum d'initiative populaire qui ne soit pas soumis à toutes les contraintes qui aujourd'hui existent dans la Constitution, ça me semble tout à fait possible. Les hommes et les femmes de bonne volonté peuvent se mettre autour d'une table pour réfléchir à un référendum d'initiative populaire, comme en connaissent de très nombreuses démocraties dans le monde. Donc il y a des réponses, mais ces réponses, il faut bien partir d'un diagnostic. Oui, la démocratie représentative aujourd'hui est en mauvais état. Il faut savoir que la crise de confiance vis-à-vis des grandes institutions représentatives en France, que sont l'institution présidentielle d'un côté, issue du suffrage universel, et l'institution parlementaire, cette crise de confiance est gigantesque. J'avais créé il y a 10 ans ce baromètre de confiance dont je parlais tout à l'heure. Ça, depuis 10 ans, on n'a jamais eu des chiffres aussi exécrables. C'est environ 3/4 des Français qui disent maintenant ne plus avoir confiance dans l'institution parlementaire ou dans l'institution présidentielle.
Ou médiatique. Voilà.
En fait, ou médiatique, alors n'en parlons
grand
pas.
Désir
ou
de
partisane,
de balai des élites
ou intellectuelle, etc. Ouais. C'est toutes les médiations qui sont dans
alors,
crise.
Alors tous ces outils de démocratie directe ou semi-directe, comme disait Pascal Perrino, vous les connaissez bien dans les think tanks, Thierry Pêche, et vous les évaluez dans toute cette panoplie. Est-ce qu'il y en a un, en effet, qui serait à la hauteur de la situation que nous vivons?
Alors, c'est une question compliquée, parce que si on met de côté, je dirais, les médecines traditionnelles sur les institutions, les contre-pouvoirs, etc., et qu'on observe les médecines non conventionnelles participatives, appelons-les comme ça, donc les référendums d'initiative citoyenne, partagées, etc., on a toute une panoplie d'expériences dans le monde autour de nous. Hubert faisait allusion à la Suisse, il y a des pratiques en Californie, il y a des pratiques en Islande qui sont très intéressantes. Je signale aussi que dans le monde des grandes démocraties européennes, l'Italie a des méthodes de ce type pour faire des référendums d'abrogation, notamment. Donc tout ça existe. À chaque fois, il y a des conditions limitatives qui encadrent assez strictement l'exercice. D'abord, des conditions de souscription. Et ça, je crois que c'est très important. Parce que le référendum auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, Émilie, c'est un référendum sur les institutions, c'est un référendum classique, c'est pas un référendum d'initiative citoyenne.
Donc ça, non, mais c'est aussi ça qui est dans
les tuyaux de l'Élysée. C'est ce qu'on peut faire déjà à partir de l'équipement que nous donne la Ve République. Donc si on veut faire autre chose, et mieux que le référendum d'initiative partagée de Sarkozy, qui supposait quand même 10% des inscrits, ce qui est quasiment inaccessible, et 185 parlementaires, du coup ça n'a jamais eu lieu depuis 2008, eh bien, il faut regarder ailleurs. Moi, il y a un modèle que j'aime bien.
Il faut cerner les sujets aussi.
Alors, je vais y venir. Les fonctions, donc abrogatif, législatif, révocatoire, constitutionnel. Je pense que abrogatif, législatif, c'est la même chose. Et c'est bien, c'est ça qu'il faut garder. C'est-à-dire, c'est vraiment remettre le peuple, comme dit l'article 6 de la déclaration de 1789, en situation de concourir personnellement, entre guillemets, à la formation de la loi. C'était la formule équilibrée de Talleyrand, personnellement ou à travers ses représentants. Bon, donc, si on garde ces deux fonctions-là, on dit qu'il y a des conditions de souscription. Aujourd'hui, 10% du corps électoral, c'est juste impossible. En Suisse, on est à 2%. En Italie, on est à 1%. En Californie, on est à 5% de ceux qui ont participé à l'élection du précédent gouverneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est beaucoup moins exigeant que ce qu'on a, nous, dans nos institutions. Donc, des conditions de souscription plus basses. Mais on pourrait aussi dire que, d'abord, un, ça ne porte jamais sur la loi budgétaire. Ça ne porte pas sur la loi de finances. Parce que là, ça détricote tout. Et ensuite, on pourrait aussi dire que, comme en Islande, quand on a les souscriptions requises, eh bien, on constitue une assemblée délibérative de citoyens tirés au sort qui vont mettre la question en état d'être tranchée après avoir auditionné des experts, des institutions, des personnalités qualifiées, etc. Et après que le Conseil constitutionnel aura donné son go de constitutionnalité. Bon. Et une fois que le peuple se sera donné à lui-même l'intelligence nécessaire pour formuler une bonne question, on peut soumettre ça au vote populaire. Ce genre de méthode, c'est intéressant dans les conditions limitatives que j'ai énoncées. Je pense qu'on ne se déconsidérerait pas, on ne se déshonorerait pas, au contraire, si on approchait ce genre de solution.
En guise de conclusion sur cette réflexion hexagonale, Sylvie Goulard, et en effet, vous êtes aux premières loges pour aller aussi chercher des exemples européens.
Non, mais voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que vous avez dit vous-même, là, notre discussion est extrêmement tournée sur la France, ce qui est normal vu la situation. Enfin, Thierry a donné des exemples venant d'autres pays. Moi, il y a quand même une chose que je voudrais souligner. Ça fait quelques années que j'ai essayé de réfléchir à l'évolution de la démocratie compte tenu aussi de notre appartenance à l'Union européenne. Nous ne pouvons pas passer sous silence le fait que même le plus puissant des présidents de la République française, le lendemain de son élection, devient un des membres du Conseil européen, une instance où se prennent beaucoup de décisions et sur laquelle en France il y a assez peu, il n'y a pas de mot en français, mais d'accountability. Madame Merkel va au Bundestag avant le Conseil européen, elle y va après. Le Premier ministre italien fait la même chose. Nous, notre représentant, parce que c'est la Constitution, je ne le critique pas, mais n'a pas la même chose. Donc comment on fait pour faire en sorte que le travail entre le Parlement européen et les parlements nationaux soit beaucoup plus étroit, de manière à ce qu'il n'y ait pas un niveau où des élus, et des élus au suffrage universel direct. Il faut arrêter de dévaloriser la démocratie européenne, mais prennent des décisions. Et ensuite, au niveau national, le reste de la classe politique considère que ça vient de Martiens. Donc la dimension, l'interaction entre une démocratie nationale et une démocratie européenne, c'est d'ailleurs un chantier absolument magnifique. Je crois qu'on a là une tentative en Europe de faire quelque chose, qu'on devrait avouer qu'il y a des limites et des failles, mais aussi mesurer ce qu'on a essayé de faire avec nos partenaires. Et donc ne pas chercher des solutions actuellement uniquement dans le cadre national.
Merci pour ces précisions. On va maintenant quitter la France avec vous, Hubert Védrine, quitter les vœux du président Macron. On va aller regarder la version américaine de ce passage obligé présidentiel, les vœux de Donald Trump, autre continent, autre style.
France Culture. L'esprit public, Émilie Aubry.
Donald Trump était contrarié à cette période de vœux, contrarié par le shutdown, c'est-à-dire le blocage d'un quart des activités gouvernementales depuis le 22 décembre dernier, soit le gel des salaires de plus de 800 000 fonctionnaires, faute de budget, blocage lié au fait que les démocrates contestaient le financement du mur que Trump voulait ériger à la frontière avec le Mexique, 5 milliards de dollars réclamés par le président pour engager les travaux. Autre motif de contrariété pour le président américain, cette nouvelle majorité démocrate de la Chambre des représentants qui avait fait ses débuts début cette semaine et préparait une série d'actions qui allaient déplaire sans doute fortement aux milliardaires à la mèche blonde, comme par exemple la reconstitution de l'Observatoire sur le réchauffement climatique, supprimé par la précédente majorité républicaine. Sans oublier la démocrate Nancy Pelosi qui avait repris jeudi le perchoir perdu en 2011 et accueilli cette nouvelle génération d'élus progressistes à l'image d'Alexandria Ocasio-Cortez, apparue en tailleur pantalon blanc et non en jupe comme le voulait la tradition en hommage aux suffragettes. Trump qui avait sans doute frémi de rage en lisant par ailleurs cette tribune signée Mitt Romney, ancien candidat républicain dans le Washington Post, qui exprimait ses doutes sur la stature de Trump qui, je cite, « n'avait pas endossé le costume de président comme le montrait sa conduite ces deux dernières années et particulièrement en décembre », référence évidente à l'annonce présidentielle sur le retrait des troupes américaines de Syrie qui avait entraîné la démission de Jim Mattis du Pentagone. Certains analystes imaginant déjà un duel Romney-Trump aux primaires républicaines de 2020. Alors dans les vœux de Trump, ce que l'on entendait clairement, c'était un président en campagne pour sa réélection.
Pendant que je travaille à la Maison Blanche, vous êtes en train de faire la fête ce soir. Mais je ne vous en veux pas. Amusez-vous, nous allons avoir une super année, très bonne année. Ça va être une année géniale. Compliqué, mais génial. Nous avons eu deux très bonnes années. Je travaille dur pour vous. Je me bats pour vous. On va gagner. On va gagner jusqu'au bout. On va gagner dans tout ce qu'on entreprend. Alors, bonne année. Profitons de l'année prochaine. Après, nous profiterons de la suivante. Et ensuite, nous aurons quatre années de plus et tout sera tellement beau. Merci beaucoup. Je vous souhaite une année fantastique.
Voilà, autre continent, autre pays, autre président, autre séance de vœux, autre style, Hubert Védrine. Et très clairement, dans ce nouveau jeu médiatique et démocratique, en réalité, aux États-Unis, on est déjà dans la campagne d'après.
Vous savez, il n'y a pas de miracle des vœux quand même. Hein. Même s'il y a le rituel des vœux et qu'en général, les dirigeants qui se plient à ce rituel disent des choses un peu gentilles, un peu rassembleuses. En fait, ils sont ce qu'ils sont avant et après et ils continuent leur combat politique. Et c'est une occasion parmi d'autres qu'ils saisissent plus ou moins bien, plus ou moins gentiment. Mais Trump, est-ce qu'il est ? Encore, il n'est pas le plus agressif, parce qu'il a même dans un autre texte, en quelque sorte, c'était une bonne année à tous ceux qui le haïssent, ça, c'est-à-dire beaucoup de gens, en fait.
Sur un mode enfin, pas vraiment peaceful, quoi.
Non, parce qu'il est comme ça, il est provocateur. Ce qui fait rigoler, c'est quand il dit « je suis obligé de travailler », parce qu'il appelle travailler, on ne sait pas très bien.
Ce qui a fait beaucoup rire sur Twitter, sur les réseaux sociaux.
Il envoie des tweets, il regarde Fox News, et voilà. Et il est furieux de ne pas être dans sa maison de Mar-a-Lago, où il ferait la même chose, et on avait également des tweets. Bon, tout ça, il y a un côté, disons, comique, mais en fait, il est engagé dans ce combat qui est celui de son éventuelle réélection contre la machine démocrate qui veut essayer de l'embêter sur tous les points mais qui n'arrivera pas à le ligoter complètement sur l'international. Et puis il y a le compte à rebours, la course judiciaire aussi, de savoir s'il sera rattrapé ou pas par les juges, par les enquêtes sur l'affaire russe. Mais voilà, il est en plein combat. Donc l'aspect vœu est un petit peu artificiel quoi, par rapport à ça.
Il y a la réalité.
Il garde des atouts, hein. J'étais à Washington l'autre jour, puisque j'étais donc aux obsèques du président Bush père, et j'ai constaté un point dans les contacts que j'ai eu même en peu de temps, c'est qu'il est soutenu sur la Chine. Et là, c'est très important, parce que même les gens qui haïssent Trump, qui ne peuvent pas c'est-à-dire le supporter...
C'est-à-dire dans cette guerre commerciale qu'il livre...
Plus que commerciale. Hein. C'est une espèce de gigantesque bras de fer stratégique aussi pour 10 ou 20 ans. Et là, donc, même des gens qui seraient très contents de le voir en prison demain, Trump, après tout, il n'a pas tort sur la Chine, trop c'est trop. Kissinger a été absolument génial au début, il y a 40 ans, quand il a cassé l'alliance URSS-Chine. Et après, à la longue, on était trop complaisant par rapport aux Chinois. Et en effet, il y a les transferts forcés de technologie, il y a le non-respect de la propriété intellectuelle, il y a les avancées dans la mer de Chine, c'est un bras de fer. C'est un bras de fer stratégique. Là, il y a un élément qu'il faut l'avoir en tête, parce qu'à mon avis, si Trump finit par sauter, ou ne pas être réélu, j'en sais rien en fait. Je pense que ça continuera sur cette ligne.
Mais ce Trump dont vous dites que sa politique extérieure est en partie saluée, il est aussi vivement critiqué.
Sur la Chine.
Oui, sur la Chine, c'est ça. Je voulais vous entendre sur le fait qu'il est par ailleurs vivement critiqué sur cette annonce intempestive qu'il a faite, comme toujours, sur le retrait des troupes américaines du nord de la Syrie.
Il n'est pas critiqué par sa base. Hein. D'abord, il l'a dit depuis très longtemps. Il fait très longtemps qu'il dit « je me demande ce
qu'on fiche là-dedans ». Mais vous parlez de ses homologues, et notamment dans l'univers diplomatique.
Non, les homologues. Le système diplomatique, notamment occidental, qui est complètement perturbé par la déconstruction par Trump lui-même de tous les systèmes d'alliance. Mais dans l'opinion américaine, à mon avis, il est soutenu. Hein. il est soutenu. L'interventionnisme, le côté idéaliste des néoconservateurs qui veulent répandre la démocratie américaine partout à coups de bombe, c'est pas du tout majoritaire. Déjà, Obama avait entamé un retrait.
Ce retrait-là.
Donc que ça nous perturbe, nous, enfin une partie des responsables occidentaux, oui. Que ça l'affaiblisse sur le plan interne, je ne crois pas, ça.
Votre commentaire, Sylvie Goulard, à la fois sur la situation interne des États-Unis en ce début d'année 2019, avec cette réalité du shutdown. Il faut peut-être d'ailleurs redire ou réexpliquer d'un mot ce que cela signifie concrètement pour la vie quotidienne des Américains, des services publics, des administrations américaines, et sur ce président qui est déjà en campagne pour sa réélection.
Non, d'abord, un mot, ça veut dire que quand il n'y a pas d'accord sur le budget, les administrations fédérales cessent de fonctionner, ce qui est d'une brutalité tout à fait incroyable par rapport au système. Dans nos pays, en général, il y a des espèces de systèmes de secours, on prolonge le budget précédent, etc. Là, les gens ne sont plus payés, les administrations ferment. C'est tout à fait conforme à la brutalité du système américain. Non, moi, Hubert Védrine l'a dit dans la deuxième partie de son intervention, je crois qu'il faut prendre très au sérieux ce qui se passe aux États-Unis. Notamment en termes de souveraineté pour les autres pays du monde. Parce que nous pouvons garder des apparences de souveraineté, mais M. Trump travaille, il a défait l'accord climat, enfin il essaye, il a dénoncé un accord de non-prolifération nucléaire avec l'Union soviétique, qui est quelque chose qui remontait à 87, il a renoncé à l'accord avec l'Iran, qui a un impact extrêmement important pour nos entreprises et qui pose des questions fondamentales sur ce que nous avons construit en Europe, puisque à partir de la dénonciation par les États-Unis d'un accord avec l'Iran, ce qui est le droit des Américains, les Américains s'arrogent une vision qui consiste à dire que plus personne n'a le droit de conclure un accord avec l'Iran. Et notamment un certain nombre de pays d'Europe qui avaient conclu cet accord ne peuvent plus faire du commerce, nos entreprises se retirent parce que si elles ne se retirent pas, elles deviennent l'objet de sanctions américaines. Elles n'ont plus accès, par exemple, si ce sont des banques, au financement en dollars. Et donc, nous avons créé une monnaie qui fête ses 20 ans. Je crois qu'on pourrait aussi de temps en temps dire des choses positives. On a créé une monnaie dont personne ne pensait qu'elle arriverait à prospérer. Cette monnaie atteint ses 20 ans. Elle s'est consolidée. Nous avons une monnaie stable, plus stable que le Deutsche Mark. Les gens l'ignorent parfois. Le fait qu'il n'y a pas d'inflation protège les épargnants. Et je le dis à l'antenne, y compris des personnes qui ont une petite somme sur leur livret de caisse d'épargne et qui autrefois se faisaient ronger leur effort d'épargne par l'inflation. Donc nous avons réussi un certain nombre de choses. Mais il y a des choses par contre que nous n'avons pas réussi, et notamment c'est de garantir que l'euro puisse être une alternative au dollar, de manière à nous mettre à l'abri de décisions unilatérales américaines et demain peut-être d'autres peuples. C'est pas dirigé contre quelqu'un, c'est simplement comment organisons-nous notre souveraineté et ayons aussi, je dirais, le courage de regarder les failles de notre système. C'est vrai pour la monnaie, c'est vrai pour des décisions en matière de défense. Si les Américains se retirent de certains pays, la ministre de la Défense l'a dit, il n'est pas forcément facile de rester si nos alliés ne sont plus là. Donc je crois que nous sommes, comme l'a dit Hubert Védrine, dans une phase de recomposition profonde qui appelle une discussion avec beaucoup de sérieux, là aussi, en prenant en compte les nouvelles contraintes et aussi l'impact que ça peut avoir, par exemple, en matière de budget de défense. Quand il va y avoir des choix à faire dans les années qui viennent en matière de répartition de nos richesses, il va peut-être falloir que les Européens, et ça avait été demandé par Obama, c'est vrai que le tournant ne date pas de M. Trump, et nous devons probablement nous atteler à accroître notre autonomie indépendamment de qui se trouve au pouvoir dans d'autres pays, simplement pour être capable de faire face. Et pour l'instant, nous ne sommes pas totalement équipés comme nous le devrions.
Face à ce tournant ou ce bilan géopolitique de l'Amérique de Donald Trump, mais dont vous nous expliquez évidemment qu'en réalité il remonte à bien avant, il y a ce livre qui paraît ces jours-ci de Thomas Gomard, le patron de l'IFRI, qui publie L'affolement du monde chez Talendier. Justement, ce livre qui explique comment les pôles de stabilité sur la planète se sont déplacés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui finalement et paradoxalement la stabilité est incarnée par des régimes comme le régime russe ou le régime chinois face à une Union européenne et des États-Unis qui aujourd'hui incarnent cette instabilité et que cela représente un changement d'époque notable, Thierry Pech.
Alors, la Chine, facteur de stabilité peut-être, dans le cas de la Russie, je suis moins sûr quand même. J'ai l'impression que elle ne crée pas des conditions de très grande stabilité à sa frontière ukrainienne, que son attitude sur la question de la Crimée n'a pas été vraiment une... Bon, donc je tempérerai beaucoup ça. La grande question, c'est la Chine. Et je crois que Hubert et Sylvie l'ont rappelé, ils ont raison. Trump reste populaire là-dessus, mais Trump n'a pas le monopole d'un discours très dur sur la Chine dans le paysage politique américain. L'administration Obama, en matière commerciale, n'avait pas été complètement pacifique non plus sur ce sujet à l'égard de la Chine. Et en fait, j'ai envie de dire, la prochaine guerre froide sera pacifique, si vous me passez l'expression. Elle regarde ce qui se passe de part et d'autre de l'océan Pacifique.
Mais en termes de mer, pas de...
Oui, de mer, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire.
J'ai eu un doute.
Non, bien sûr, la prochaine guerre froide sera pas pacifique au sens géographique du terme. Voilà. Et je pense qu'un des intérêts des États-Unis dans cette relation conflictuelle avec la Chine, c'est de diviser l'Europe. C'est d'affaiblir l'Europe. Parce que l'Europe est un partenaire de substitution vital pour la Chine. Si ça se passe mal avec les États-Unis, l'Europe est un partenaire qui prend encore plus de valeur aux yeux de Pékin. Et donc, une Europe divisée, où les questions protectionnistes, où les thèmes protectionnistes gagneraient, où les intérêts nationaux, le repli sur les intérêts nationaux serait, rapide, en gros ce qui est en train de se passer, bon, pour faire très très schématique, c'est très bien. C'est très bien. Et les Russes ont le même intérêt à la division de l'Europe pour d'autres raisons. Parce que l'Europe, sur la question ukrainienne, ils ont pu tester que c'était pas un partenaire forcément très favorable à leur influence. Bon, donc au total, on est pris entre deux feux, nous, Européens, qui sont des feux extrêmement dangereux parce que très puissants. Et on s'en sort pas très bien, au fond, aujourd'hui. Et
je crois qu'il faut vraiment distinguer selon les matières. Il y a des matières dans lesquelles nous ne sommes pas organisés, et c'est malheureux, pour avoir une position européenne unique. En matière commerciale, en tout cas, les procédures existent. C'est une compétence exclusive de l'Union. L'Union a signé récemment un accord avec le Japon, par exemple. Voilà. Donc, nous pouvons peser plus dans ce domaine-là que dans d'autres.
Nous sommes mieux équipés en matière commerciale. Je voudrais juste faire observer, Sylvie, quand même, que quand Berlin réfléchit à sa relation avec les États-Unis, il regarde beaucoup le compteur des exportations. Il se demande pas si ça va complaire aux partenaires européens pour enterrer les projets de taxation des GAFA, par exemple.
Fair point. Non, là, je suis d'accord.
Vous êtes d'accord.
Suis d'accord. Je dis simplement, l'OMC est voilà. Même totalement de côté. Donc, mais essayons de décrire en tout cas
d'accord.
Les procédures qui existent.
Je ne voudrais surtout pas trop tempérer votre optimisme, mais l'OMC n'est pas en très grande forme non plus.
Donc l'OMC va mal.
Le cadre multilatéral commercial lui-même, pourtant sur un terrain européen.
Le multilatéralisme ne se porte pas très bien. Ouais. Pascal Perrino, vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt cette semaine les vœux du président Poutine, puisque ce dimanche, on essaye de se demander ce que les vœux nous racontent des présidents et de l'époque. Alors écoutons un extrait de ces vœux du président Poutine. Il faut savoir qu'en Russie, les vœux du président se font 5 minutes avant minuit, 5 minutes avant le passage dans la nouvelle année.
Il nous reste à résoudre un certain nombre de problèmes d'actualité dans le domaine de l'économie, de la science et de la technologie, dans la santé, l'enseignement et la culture. Et le plus important, nous devons favoriser étape par étape le bien-être de notre peuple et sa qualité de vie pour que tous les citoyens russes, chacun d'entre nous, sentent déjà les changements positifs dans l'année à venir. Nous ne pouvons le faire que tous ensemble. Personne n'a jamais voulu et ne voudra jamais nous aider.
Voilà, personne ne veut jamais aider la Russie. Cette phrase extraite des vœux du président Poutine, Pascal Perrino, le président Poutine qui a tenu un discours très paterfamilias, évidemment on n'a pas pu tout entendre, et qui par ailleurs s'est posé en cette rentrée 2019 comme un président au centre de la diplomatie mondiale, puisque le Kremlin, en parallèle de ses vœux, a fait savoir que le président Poutine avait adressé comme ça un certain nombre de lettres de vœux à Emmanuel Macron, à Angela Merkel, à Donald Trump, comme s'il se posait plus que jamais au centre de cette diplomatie mondiale.
Et même à Theresa May.
Et même à Theresa May après l'affaire Skripal.
Donc, vous voyez en effet que le côté force de paix qu'a voulu incarner le président Poutine ne connaissait, pour ainsi dire, aucune limite. Ce qui était frappant, en effet, c'était un discours qui avait une connotation privée tout à fait impressionnante. Il se posait en paisible chef de famille, et il s'adressait aux familles russes et aux valeurs éternelles dont cette famille russe était porteuse. Ensuite, en effet, il disait au fond, ces valeurs de la famille russe sont les valeurs de la patrie russe, et cela doit montrer un exemple au monde. Il y avait une volonté, en effet, pour une force, j'écoutais Thierry Pech tout à l'heure, qui ne se présente pas, du moins sur le continent européen, comme une force de paix évidente, et c'est une litote.
Vous ne parlez pas de moi, vous parlez de la Russie.
Eh bien, il y avait une volonté, en effet, de dire aussi que la Russie pouvait être aujourd'hui une grande force de paix et qu'au travers de son retour sur la scène internationale, le président Poutine pouvait ripolliner un peu son image. Parce que quand on regarde tout de même les enquêtes d'opinion des leaders dans le monde et que vous regardez l'image du président Poutine, elle est très bonne en Russie. En revanche, dans les pays européens, c'est une image extrêmement, extrêmement détériorée. Donc là, il y a tout un travail de reconquête de l'opinion qu'a commencé le président Poutine.
Puisqu'on parlait à l'instant de Donald Trump, Hubert Védrine, Donald Trump a fait un formidable cadeau de nouvelle année à Vladimir Poutine en annonçant ce retrait des troupes américaines de Syrie. Aujourd'hui, c'est plus que jamais la Pax Putina dont on avait déjà pas mal parlé dans ce studio.
Non, mais c'est pas fait pour ça. Hein.
C'est fait pour séduire l'opinion publique, certes. Mais
sa base électorale. Trump, depuis des années, il dit on n'a rien à faire là-dedans, ça sert à rien.
Mais les conséquences.
Les interventions n'ont jamais marché, c'est ce que pensait déjà Obama. Hein. Par rapport à ça. Et donc, il s'est borné à dire, quand il est attaqué par tous les interventionnistes de gauche et de droite, qu'il avait dit que, voilà. Mais c'est pas pour faire un cadeau à Poutine.
Lui, de fait.
L'idée de Trump, ce serait d'avoir des rapports moins mauvais avec Poutine. Et à mon avis, c'est la seule bonne idée qu'il avait, mais il est bloqué par le système américain, pour d'autres raisons et par ses propres imprudences. Mais c'est pas pour créer une situation. Il se fiche un peu de la situation après, en fait, par rapport à ça. Alors, après que la situation soit gérée plus ou moins par les Russes, avec les Iraniens, les Turcs, etc. C'est pas son sujet, en fait. C'est pas pour faire des cadeaux par rapport à ça. Mais si vous me donnez juste une seconde, pour rebondir sur ce qui a été dit par Sylvie et par d'autres avant, moi je pense qu'il faut pas regarder notre situation qui est préoccupante uniquement par rapport à Trump. Mais en réalité, il y a énormément de puissances dans le monde qui considèrent que l'Europe est un ventre mou, en fait, dont on peut faire absolument ce qu'on veut. Ils n'ont même pas besoin de diviser l'Europe. Et les Européens sont divisés de facto sur beaucoup de sujets, en dépit des décennies de travail. Donc c'est le cas de Trump, c'est
il
le cas de Poutine.
Hubert, si je puis me permettre, quand Trump exempte l'Italie, gouvernement, la coalition actuelle, des sanctions contre l'Iran, c'est pour nous diviser. Je crois qu'il ne faut pas
point de départ, c'est pour imposer,
les dédouaner.
Non, mais je ne dédouane pas. Je pense que le problème est surtout chez nous, en fait.
Oui, bien sûr, mais...
Que Trump, ça nous dispense de nous interroger sur nous. Et quant à l'Iran, son objectif, c'est comme au Moyen-Âge. Je veux faire une sorte de blocus pour faire chuter le régime, etc. Mais en tout cas, Trump, Poutine dans son genre, les Chinois qui font des sommets avec la moitié des Européens, Erdogan qui veut imposer les meetings qui ont le droit d'avoir lieu ou pas, Netanyahou qui veut nous terroriser à l'idée qu'on ait une politique sur le Proche-Orient, les Saoudiens naturellement, les islamistes qui ont des plans sur les à partir des 25 millions de musulmans en Europe, les trafiquants d'immigration illégale qui font fonctionner une gigantesque économie jusqu'au fond de l'Afrique. Tous ces gens-là disent bah l'Europe, ils font des discours, on s'en fiche en fait. Et c'est ça le drame. Le vrai drame, c'est ça. Et moi qui ai toujours
c'est
été réservé.
C'est pour ça qu'il faut y travailler.
Non, moi qui ai toujours été réservé sur le discours sur l'intégration européenne, sur le calendrier, les méthodes, les points d'application, qu'est-ce qu'on dit aux gens ou pas, j'ai toujours été un peu réservé là-dessus. Je ne suis pas du tout réservé sur le fait qu'on a besoin que l'Europe se fasse respecter. Et ce que Mme Merkel a dit de mieux au fil des années, c'est qu'on ne peut plus compter tout à fait sur eux, les Américains.
Elle l'a redit dans ses voeux.
Oui, très bien.
Elle y a refait.
Il faut s'organiser mieux entre nous. C'est fondamental, ça. C'est fondamental.
C'est alors, Sylvie Goulard,
c'est pas que l'intégration, vous voyez, c'est la prise de conscience de la nécessité
d'une
Europe puissante.
Pour ne pas partir dans tous les sens, en revenant peut-être sur cette rentrée et sur ces vœux du président Poutine, vous sembliez en désaccord avec Hubert Védrine lorsqu'il disait que c'était pas tellement le sujet de Vladimir Poutine de se retrouver au centre du jeu diplomatique, notamment en Syrie, au moment où les États-Unis annoncent leur retrait, même si finalement Donald Trump est un peu revenu sur sa déclaration intempestive après les critiques. Finalement, il évoquait un retrait lent de ses soldats américains.
Donc, le sujet numéro un pour nous Européens, c'est de prendre la mesure de ce qui se passe et de nous unir beaucoup plus.
Globalement.
Je dirais par tous les moyens possibles et imaginables, que ce soit des moyens... C'est Paul-Henri Spaak qui disait « Je veux pas l'Europe comme ci ou l'Europe comme ça, je veux l'Europe tout court ». Il faut que, sur un certain nombre de dossiers, nous prenons conscience, comme Thierry l'a très bien dit, que si nous nous divisons sur le commerce pour faciliter notre industrie à un moment donné face à la Chine, nous y perdrons tous à long terme. Que sur la Syrie, si nous ne sommes pas capables d'avoir des positions communes, ça va redevenir un camp d'entraînement de djihadistes qui pourront attaquer nos villes. Que sur l'immigration, si nous ne nous mettons pas d'accord, nous aurons une instabilité à nos portes. Donc, cette nécessité, je ne dis pas du tout que ce soit facile, je pense qu'il y a un énorme travail à faire, et c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Là où des procédures existent, utilisons-les au maximum. Quand elles n'existent pas, ouvrons un débat pour savoir de quels outils nous avons besoin. Mais sur l'urgence, quand on entend M. Poutine, M. Trump, quand on voit la puissance de la Chine, quand on voit les investissements militaires, c'est pour ça que j'avais réagi sur le Pacifique. Oui, l'océan Pacifique risque de devenir, et la mer de Chine, une zone dans laquelle il peut y avoir des conflits armés. Nos générations ont un peu perdu de vue le risque qu'il peut y avoir d'avoir à affronter des conflits. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de raisons en ce moment, qu'elles soient vers l'océan Pacifique ou vers l'océan Atlantique, de se prendre en main.
Ce que disait en effet le livre que je citais tout à l'heure, qui sort ces jours-ci de Thomas Gomard, le patron de l'IFRI, ça vous parlait de conflits dans le Pacifique et donc non pacifique. En effet, dans ce livre, il pose très clairement la probabilité, pour ne pas dire la possibilité, d'un retour à des conflits état-étatiques de type classique, de type de ceux qu'on a connus il y a déjà maintenant pas mal de décennies.
Technologique. Je ne sais pas, Thomas a sûrement fait un excellent livre.
En effet.
Parce qu'on a peu parlé de technologie, là. Je crois qu'il y a une forme de guerre qui est en train de se développer, qui est sournoise, mais qui peut arrêter demain nos hôpitaux, nos systèmes financiers, nos entreprises.
Avec une grande attaque numérique, voilà, notamment, qui s'est déroulée en Allemagne ces derniers jours.
Le risque qu'on appelle le risque de cyber-insécurité est majeur. Et là aussi, je crois qu'il serait totalement illusoire de penser qu'il y a des solutions nationales quand tous les systèmes sont interconnectés.
Conclusion sur cet état du monde en ce début 2019, peu réjouissant que nous traçons Thierry Pêche.
Pour citer Jean-Louis Bourlange à ce micro,
il appréciera.
Il avait coutume de dire, et je trouvais ça très drôle et très juste, on a fait l'Europe comme un wagon restaurant et pas comme une voiture blindée. Et il va falloir imaginer l'Europe voiture blindée, pour faire métaphore. Là, on n'a pas les instruments, il faut les construire, c'est très compliqué. Et là, la France a un rôle pivot à jouer en Europe. Et je crois que si c'est pas possible à 27, si c'est pas possible dans le cadre de l'UEM, peu importe, l'urgence fait qu'il faut surmonter ces détails, ça n'en est pas, mais enfin ces périmètres institutionnels, et faire avec ceux qui voudront et ceux qui pourront, et je pense à l'Allemagne et je pense au Royaume-Uni, très au-delà des questions sur le Brexit, donner à l'Europe une identité géopolitique dans un monde de puissance.
Vous avez d'ailleurs...
C'est une question mentale.
Les mentalités évoluent. Sincèrement, en Allemagne, je suis frappée du fait que l'Afrique n'était pas un sujet il y a 10 ans. C'est un sujet, que sur la défense, il y a des réticences, mais que nous avons toujours apprécié aussi, parce que nous ne voudrions pas d'une Allemagne revenant au militarisme, et qu'il y a un débat qui s'est ouvert. Donc encore une fois, il y a un énorme travail à faire, qui est un travail de rassemblement par-delà les frontières. Ça ne se fera pas sans un investissement majeur en temps de toute la classe politique, de tous les médias, de toutes les entreprises, de tous les syndicats et des think tanks, bien sûr, on compte sur Thierry.
Est-ce vraiment bien parti dans ce sens-là, Pascal
Perrineau? J'aime pas arriver à la fin de l'énumération.
Pour faire le lien à ce qu'on a dit au début et ce qu'on vient de dire à l'instant sur la scène internationale, à mon avis, on est en train de montrer que l'on sort d'une grande période, alors peut-être de naïveté, où l'on a cru qu'au plan national, comme au plan international, on était dans un processus de très longue période de civilisation croissante des mœurs. Eh bien non.
Merci beaucoup.
Norbert Elias avait connu la guerre quand même.
On n'a pas cité de livre.
Eh bien, on n'a plus le temps malheureusement. Bon, alors rapidement, sauf si vous savez le faire en 10 secondes.
Non, mais c'était un roman qui n'a rien à voir avec ce dont on a parlé, qui s'appelle L'amant du poivre d'âne, ça change un peu, de Pierre Magnan, et qui parle des années 30 et du changement technologique. Je crois qu'on ne voit jamais suffisamment tôt, à une époque... Beaucoup de métiers ont disparu parce que les chevaux ont disparu. C'est peut-être ce que nous sommes en train de vivre.
Et bien voilà pour ce conseil de lecture et puis livre de Thomas Gomard dont je parlais tout à l'heure. Merci beaucoup Hubert Védrine, Thierry Pêche, Sylvie Goulard et Pascal Perrineau d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission. À Luc Jean Reynaud qui l'a réalisé. À la technique aujourd'hui, Clément Daté. À suivre, 12h45, Signe des temps, Marc Weisman. Une spéciale Welbeck, ce que son dernier roman Sérotonine nous dit de l'époque. Et puis tout de suite, Caroline Bourré, bien sûr, Les bonnes choses. Une cure d'amande made in France, excellent paraît-il après les fêtes, à moins que ce ne soit pour l'épiphanie et la pâte d'amande de la galette des rois, je ne sais pas, en attendant une cure d'amande. Thierry Pêche, vous avez l'esprit mal placé. En attendant, bon dimanche, à la semaine prochaine.